Depuis quelque temps, donc vous le savez, je fais un suivi dans l'évangile de Marc. Donc c'est pas compliqué. Quand on fait un suivi de l'évangile de Marc, eh bien, on a juste à suivre les textes. Et c'est le cas encore ce matin. Je suis en train de suivre donc l'évangile de Marc. Je suis au chapitre 7. Et nous allons aborder ce chapitre et un petit peu le chapitre 8 qui va suivre. Parce que, comme vous l'avez vu, le Seigneur, quand on regarde les évangiles, le Seigneur n'est pas resté, quand on parle du Seigneur, Jésus-Christ, il n'est pas resté à un seul endroit. Et puis tout le monde venait de la Palestine dans cet endroit. Même si la Galilée était considérée comme le lieu, l'endroit où Jésus a vécu le plus souvent, nous voyons aussi dans la parole de Dieu, quand on lit les évangiles en tout cas, que Jésus n'est pas resté uniquement dans un endroit, il a voyagé à droite à gauche, et entre autres, il est sorti quelque temps, pendant une période, hors de la Palestine, pour aller justement visiter les autres peuples qu'il y avait là autour. Alors il n'est pas allé non plus plus loin que, il n'est pas allé non plus sur, en Espagne, hein, ou sur la Costa Brava, ou sur la Côte d'Azur, non, non, il est resté dans son territoire, pas très loin de là où c'est qu'il habitait, mais de temps en temps, il allait voir aussi les autres. Nous avons vu la semaine dernière que le Seigneur a enseigné les Juifs. C'est-à-dire quand les Juifs venaient le voir, la nation juive, quand elle venait le voir, c'était souvent de ces hommes qui étaient influents de l'époque, donc les scribes et les pharisiens, et ces hommes venaient souvent mettre des bâtons dans les roues au Seigneur Jésus-Christ, justement pour le faire tomber un petit peu dans son enseignement. Mais le Seigneur connaissait leur cœur, et nous avons vu la semaine dernière que le message qui était intitulé « Enseigne-moi Seigneur », c'était pour montrer, pour parler un petit peu de ces traditions. Vous avez juste le passage que nous avons vu la dernière fois où Jésus reprend les pharisiens et les scribes avec leurs traditions juives qu'ils avaient à l'époque. Et ces personnes-là, malheureusement, eh bien, mettaient des fardeaux sur la nation d'Israël. Et en réalité, eux, forcément, ne la pratiquaient pas. Mais ils aimaient bien mettre des fardeaux sur la nation d'Israël sans que eux pratiquent. Alors le Seigneur, bien sûr, les traite à un moment donné d'hypocrites, parce que quelque part, il leur dit, vous dites ça, mais dans la réalité, vous ne le faites pas, parce que vous avez un cœur aussi sale que la nation d'Israël. Aujourd'hui, nous allons voir que Jésus va aider et enseigner donc des païens. Alors les païens, c'était des personnes qui n'étaient pas juives, qui étaient autour de la nation d'Israël. Donc dans des régions qui nous allons voir aujourd'hui, on va parler de Tyr et on va parler de la Décapole, c'est deux régions qui sont légèrement à l'époque à l'extérieur de la Palestine. Jésus va aider une cananéenne, il va lui parler, il va lui en tout cas lui dire certaines choses et il va aider cette femme. Donc c'est pour ça tout simplement que j'ai intitulé mon message, c'est très facile mes messages, les titres en tout cas pour que vous puissiez vous en rappeler, c'est « Aide-moi Seigneur ». Donc la dernière fois c'était « Enseigne-moi Seigneur ». Aujourd'hui j'ai intitulé « Aide-moi Seigneur ». Et vous allez voir que quand on regarde ce que le Seigneur a fait pour cette femme, eh bien il a réellement aidé cette femme dans la situation qu'elle était en train de vivre personnellement dans sa vie. On est au 21e siècle, on est en 2018, donc je peux en parler, je suis en train de vivre dans cette période. Rares sont les personnes aujourd'hui qui crient au Seigneur pour qu'il vienne à leur aide. Vous savez, on est dans une vie, ben, la vie aujourd'hui est tellement rapide, hein, on va très très vite. Moi je suis parfois émerveillé par la technologie. Il y a quelques années en arrière, moi qui ai un petit peu de cheveux blancs, on ne parlait pas de téléphone portable, hein, ou on ne parlait pas de tablette, ou on ne parlait pas de certaines choses que nous voyons, le câble. Enfin, ça me dépasse parfois, la technologie. Si ça continue, je me dis, mais où va ce monde, hein? On parle déjà de robots, hein, de personnes qui sont fabriquées en robots pour aider. Aujourd'hui, on parle d'aide pour les handicapés, mais le monde va très très vite. Et je m'aperçois, dans ce monde qui va très très vite, rares sont les personnes qui demandent de l'aide à Dieu. C'est-à-dire que l'aide de Dieu, bien souvent, ça c'est l'être humain qui parle, c'est le pasteur qui parle, c'est que bien souvent on crie à Dieu quand on a des problèmes. Tant qu'on n'a pas de problème, on ne crie pas à Dieu. Enfin, soyons honnêtes, tant qu'on n'a pas de problème, quand tout va bien, quand le salaire tombe régulièrement tous les mois, quand la belle voiture est là, posée sur le parking devant chez vous, quand la maison se porte bien et va bien, que tous vos enfants réussissent à la maison, quand tout va bien, on ne crie pas à Dieu, n'est-ce pas? C'est quand on commence à avoir des moments difficiles dans notre vie où on commence malheureusement à crier à Dieu. Et c'est le cas pour cette Cananéenne qui va crier à Dieu par rapport à une situation qu'elle était en train de vivre dans son foyer. Je me dis, voilà une situation qui pourrait peut-être nous arriver. Et on aurait peut-être besoin parfois aussi de nous rappeler que quand on crie à Dieu, eh bien Dieu vient à notre secours. Regardez avec moi le passage qui se trouve dans Marc, chapitre 7, et je vais lire à partir du verset 24. Et je vais aller jusqu'au verset 30. Jésus étant parti de là, s'en allant dans le territoire de Tyr et de Sidon, il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché, car une femme, donc la fille, était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sont sous la table, mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Quand même incroyable, vous le reconnaissez bien vous-même. Ça fait partie de ces miracles incroyables que le Seigneur a fait. Et sans se déplacer, moi je me dis c'est encore plus merveilleux. Vous avez le Romain. Un Romain qui est venu voir Jésus aussi dans le Nouveau Testament, on en parle, ce personnage très célèbre, où le Seigneur n'a même pas eu besoin de se déplacer, parce que ce Romain avait un serviteur qui était malade, et par la foi de ce Romain, eh bien, le Seigneur l'a guéri. Ce sont deux miracles dans la Bible où nous voyons que Jésus n'a pas eu besoin de se déplacer vis-à-vis des personnes pour les guérir. Ça m'interpelle, c'est un épisode de la parole de Dieu qui m'interpelle. Le Seigneur n'a pas besoin forcément de venir en présence pour guérir une personne, simplement parce que le Seigneur l'a décidé et la personne est guérie par le biais du fait que cette maman avait une grande foi et nous allons le voir. Alors le premier épisode, le premier miracle, comme vous pouvez le constater, c'est que Jésus chasse les démons. Cette ville se trouve au nord-ouest. Si vous avez une carte dans votre ville, il suffit de regarder la carte que vous avez. C'est au nord-ouest. Donc le Seigneur est monté un petit peu en hauteur dans la Palestine pour justement aller voir ces personnes. Ces personnes n'étaient pas bien appréciées par la nation juive. C'est-à-dire que tout ce qui était extérieur à la nation juive, eh bien, ces personnes n'étaient pas bien appréciées. Et nous voyons que dans le texte et même dans d'autres textes qui accompagnent ce texte, on appelle ça des textes en parallèle, donc dans l'évangile de Matthieu, nous voyons que cette femme a eu un chemin pas très propre, je dirais. Quand elle est venue voir le Seigneur, eh bien son chemin était vraiment rocailleux. Donc quand elle s'est approchée de Jésus, elle avait plusieurs obstacles. Tout d'abord, sa nationalité. Elle était cananéenne, elle n'était pas juive. Et quand elle s'est approchée de Jésus, eh bien, elle était considérée comme une femme étrangère. Et pour la nation juive, eh bien, c'était un petit peu particulier. Le Seigneur va la reprendre, on va regarder un petit peu ce texte, mais en même temps, c'est une situation qui est un peu particulière. Ça, c'est le premier obstacle. Donc, elle était de nationalité étrangère à la nation juive. Deuxième obstacle, c'était une femme. On ne s'approchait pas comme cela des hommes à l'époque. Aujourd'hui, on a une liberté, en tout cas en France, de s'approcher d'un homme, de dire bonjour. Mais à l'époque, la société était dominée par les hommes et on ne pouvait pas s'approcher comme cela d'un homme. Donc c'était un deuxième obstacle qui était là devant elle. Elle a dominé cet obstacle, elle s'est quand même approchée parce qu'elle avait une demande à faire au Seigneur Jésus-Christ. Troisième obstacle que nous voyons dans le texte, c'est Satan aussi est à l'œuvre. Sa fille a un démon. Et elle était dirigée, conduite, cet enfant, par la possession d'un démon qui était en elle. Ce n'était pas le Seigneur Jésus qui avait donné ce démon. Hein. Jésus était venu pour mettre la paix dans le cœur. Satan, bien sûr, était à l'œuvre, malheureusement, chez cet enfant. Elle était possédée. Et donc, c'est pour cela que cette dame est venue voir Jésus pour libérer sa fille. Quatrième obstacle, on ne le voit pas dans le texte, mais si vous prenez le texte de l'évangile de Matthieu, à un moment donné, le texte dit clairement que Jésus était venu se reposer. Je suppose que les disciples aussi, hein. Donc ils s'étaient éloignés de la nation juive pendant quelque temps pour venir prendre un petit peu quelques moments, quelques heures, quelques jours de repos. Ce fut pas le cas, comme vous avez vu dans le texte. C'est-à-dire que tant que les gens ne savaient pas que Jésus était là, eh bien, ils ne se sont pas approchés de lui. Dès qu'ils ont su que Jésus était là, alors là, la nouvelle allait bon train. Il n'y avait pas besoin de smartphone, d'internet à l'époque pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ était connu dans toute la Palestine par ce qu'il faisait, par le bien qu'il faisait. Et il y a beaucoup de gens qui ne gardaient pas silence quand il faisait des choses merveilleuses. Alors, bien sûr que les choses allaient vite fait. En parlant, eh bien, les disciples ont demandé à un moment donné, écoute, elle nous crie derrière la tête, renvoie-la. Vous savez, nous, on est spécialistes quand il y a quelqu'un qui nous crie derrière la tête, entre autres vos enfants, vous savez, quand ils vous crient derrière la tête, vous dites souvent à votre mari ou à quelqu'un d'autre, va le mettre devant la télévision, va le mettre devant un dessin animé, va arrêter de crier. Là, c'est pas le cas. La télé n'existait pas, donc on pouvait pas dire à cette femme, écoute, arrête de crier. Elle était en train de crier derrière les disciples en avaient marre de l'entendre, et les disciples ont dit à Jésus, écoute, renvoie-la, on est venu ici pour se reposer, on a pris un petit peu quelques jours avec toi, ouais, renvoie-la. C'était vraiment un vrai obstacle, hein, de voir que toutes ces choses, eh bien, mettaient vraiment un frein à pouvoir s'approcher du Seigneur Jésus-Christ. Et le texte de l'évangile de Marc ne le dit pas, mais l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 15, où est raconté ce texte, au verset 23, on pense que Jésus même devient presque un obstacle, parce que quelque part, à un moment donné, il ne lui répond pas. Il garde le silence, nous dit le texte. Mais nous allons voir que le Seigneur avait bien plus que cela, il a dépassé à un moment donné la situation, et il a bien sûr libéré cette femme de sa situation. Samuel Rutherford était un pasteur presbytérien qui a vécu en Écosse au XVIe siècle. Et son histoire est racontée dans certains livres chrétiens, parfois que je lis personnellement ou que vous lisez peut-être, mais ce pasteur, durant son ministère, a beaucoup souffert, c'est-à-dire qu'il était responsable d'une église au XVIe siècle, et il a beaucoup souffert de sa vie ici-bas, sur cette terre, et à un moment donné, en écrivant à un de ses amis, voici ce qu'il est en train de dire, c'est l'œuvre de la foi de demander et de solliciter des bontés de l'amour de tous les coups les plus durs que Dieu nous donne. Alors lui, il voyait que tous les coups qu'il recevait, c'était Dieu qui lui permettait. Alors moi, je suis quelqu'un qui pense que tous les coups ne viennent pas de Dieu. Il y a des fois, il y a des coups pour que le Seigneur nous remette en place, ça c'est sûr. Mais tous les coups ne viennent pas de Dieu. Et ce pasteur disait, avec tous les coups, à un moment donné, tous ces obstacles que nous avons dans la vie, toutes ces difficultés que nous avons dans la vie, eh bien, parfois, on a du mal à réagir. Et je pense que la seule réaction qui était la meilleure, c'est cette réaction de cette femme qui va prendre mot au Seigneur, qui va demander, qui va invoquer la grâce de Dieu pour libérer sa fille de la situation. Alors, bien sûr que nous voyons là quelques barrières, j'ai eu l'occasion de vous en parler, mais la demande de la personne pour la première fois, verset 22, il nous dit « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». C'est-à-dire qu'elle va invoquer à un moment donné le nom du Seigneur parce qu'elle reconnaissait en Jésus qu'il était le fils de David et qu'elle avait sûrement entendu que le Seigneur pouvait, bien sûr, régler son problème. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 25, il est dit tout simplement qu'elle va invoquer son aide. Seigneur, aide-moi. Verset 25 du chapitre 15 de l'évangile de Matthieu. Alors maintenant, allons voir un petit peu la réaction du Seigneur Jésus-Christ. Il faut bien avouer, quand on lit le texte à la première abord, on se dit, mais pourquoi le Seigneur a eu ces réactions vis-à-vis des personnes qui venaient le voir? Alors, regardons ensemble un petit peu, et le Seigneur lui répondit, donc, verset 27, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Oui, lui répond verset 28, « Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » On va juste s'arrêter là, un petit peu pour essayer de comprendre un peu pourquoi le Seigneur réagit comme cela vis-à-vis de cette personne. Tout d'abord, le fait d'appeler une personne petit chien, ça ne vient pas forcément du Seigneur Jésus-Christ. Cette expression, elle est employée par le Seigneur Jésus, je n'enlève pas de ce texte, mais bien souvent c'était la nation juive qui appelait les païens, donc les gens qui n'étaient pas juifs, eh bien ils étaient vraiment considérés comme des moins que rien. C'était des personnes qui étaient bien souvent au-dessus de ces personnes-là, enfin ils se disaient la nation de Dieu, et donc ils étaient pleins d'arrogance, pleins de fierté, donc tout ce qui n'était pas peuple de Dieu, eh bien souvent c'était des gens qui étaient complètement rejetés. Vous avez dans la Bible souvent les exemples de la Samaritaine, vous avez des nations qui étaient à l'extérieur et qui n'étaient pas forcément considérées. Mais le Seigneur est en train simplement de la reprendre pour lui expliquer en quelques mots que bien sûr qu'Israël était une nation importante parce que son rôle à la base c'était d'annoncer l'évangile, chose que malheureusement Israël n'a pas fait, mais cette femme voyait en Israël, bien sûr, puisqu'elle appelle Jésus fils de Dieu, fils de David, donc elle voyait bien que Jésus était un prophète. Mais Jésus va rétablir assez vite la situation et en même temps, il va lui montrer clairement que, eh bien, elle est sauvée par sa foi et non pas par la réponse que cette femme vient de lui faire forcément, puisqu'elle s'est approchée avec espoir du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui nous montre bien que quand on s'approche de Jésus, on doit s'approcher avec la foi. Et c'est la foi qui sauve, c'est pas uniquement que nos paroles. Vous savez, bien souvent, il y a des gens qui ont de belles paroles, mais le Seigneur veut voir en nous la foi. Et c'est ça qui sauve, c'est ça qui nous aide, c'est ça qui nous fait grandir dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas la foi en Jésus, eh bien, c'est même pas la peine d'essayer de comprendre Jésus. Vous avez beaucoup de gens qui regardent la Bible et ils voient Jésus comme un prophète, un simple prophète qui est venu à un moment donné. Il y a certaines personnes qui voient Jésus comme un philosophe. Donc, c'est même pas besoin de s'approcher de la parole de Dieu et d'essayer de comprendre. Jésus est le sauveur du monde. Voilà ce que la Bible dit. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Si vous comprenez cela, alors on peut s'approcher de Jésus par la foi. On peut s'approcher et on peut demander des choses au Seigneur Jésus-Christ. Cette personne avait une fille qui était malade, qui avait des problèmes. Eh bien, elle a demandé l'aide du Seigneur Jésus-Christ et Jésus l'a délivrée de sa fille et aussi a lui délivré cette maman qui était vraiment en grande difficulté de voir sa fille qui était dans une grande détresse. Disons les choses telles qu'elles sont. Alors, si j'ai appelé le titre de mon message « Aide-moi », je me dis, mais le Seigneur peut venir à votre secours. Hein. Moi, je suis convaincu que Dieu peut venir à votre secours. Il n'a même pas besoin de se déplacer. Il n'a même pas besoin de manifester sa présence. Il n'a même pas besoin de se dire, tiens, je suis là, je suis... Il n'a même pas besoin de cela. Le Seigneur peut simplement vous aider là où c'est que vous êtes. Et je crois que dans la Bible, on parle de la prière de la foi. On parle de la prière du juste qui a une grande efficacité. Moi, je pense que la foi est quelque chose que nous devons prendre en considération en tant qu'enfant de Dieu. La foi, c'est prendre Dieu au mot. Vous comprenez cette pensée? Prendre Dieu au mot. Quand cette Cananéenne est venue voir Jésus, elle a dit « Aide-moi, secours-moi ». Mais je pense qu'en tant que personne, parfois, on a besoin de prendre Dieu au mot. La Bible nous dit qu'on peut transporter des montagnes. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, par votre foi, de transporter une montagne. Personnellement, j'ai déjà essayé, je ne suis jamais arrivé. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que le Seigneur ne va pas répondre à mes attentes, à mes besoins, à mes arguments parfois quand je m'approche de lui? Bien sûr, je sais que Dieu a souvent exaucé mes prières. Et quand je vois ce que le Seigneur a fait dans ma vie, je me dis, waouh, c'est un grand Dieu. Il a manifesté vraiment son amour, il est venu m'aider à un moment donné. Il me montre dans sa parole ses promesses, et grâce à ses promesses, je peux m'y atteler, je peux m'y accrocher. Je vous ai dit un jour que le Seigneur dit, avant de partir, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Je me dis, mais est-ce que nous comprenons cette pensée quand nous sommes là, dans nos difficultés, dans notre vie, et que nous puissions dire dans notre Seigneur, « Mais Seigneur, tu m'as fait cette promesse ». Tu m'as dit que tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'aujourd'hui tu es avec moi dans cette difficulté? Mais oui. Si le Seigneur vous l'a promis, vous pouvez prendre pour promesse cette parole de dire, écoute, je suis dans cette situation, tu vas m'aider, j'en suis convaincu, tu vas m'aider dans cette situation. Prenons Jésus au mot. Prenons Jésus au mot. Quand la femme dit à Jésus « Secours-moi » ou « Aide-moi », c'est qu'elle avait envie d'avoir une réponse. Hein. Elle avait envie d'avoir une réponse. Alors, il lui dit, à cause de cette parole, « Va, le démon est sorti de ta fille. » Moi, j'imagine cette personne rentrée à la maison. Elle avait envie de voir sa fille libérée. Hein? Imaginez cette personne rentrer à la maison, prendre la parole au mot du Seigneur et de dire, je vais rentrer à la maison, ma fille va être libérée. Elle devait sûrement faire des bonnes, de joie. Moi, je sais que quand j'ai eu mon permis, c'était le seul moment où j'ai fait des bonnes sur le trottoir, ah ouais, je voulais faire des bonds de 50 cm, aujourd'hui je ne pourrais plus les faire, ces bonds-là. Mais ce sont des bonds de joie. Quand j'ai rencontré ma femme, c'était pas 50 cm, elle n'est pas là, c'était 1 mètre. Quand j'ai rencontré ma femme. Mais voyez-vous, il y a vraiment des moments de joie, des moments de réjouissance qui doivent vraiment nous réjouir le cœur. Et c'était le cas pour cette femme. Elle est rentrée à la maison parce que le Seigneur l'avait réconfortée. Et quand il la trouva son enfant, elle était couchée au lit, le démon était sorti. Ça peut que nous pousser à la louange et à l'adoration, n'est-ce pas? Et je pense que parfois, on oublie ça dans notre vie, c'est-à-dire que le Seigneur vient à notre secours, le Seigneur nous aide, le Seigneur nous libère de certaines situations, mais on oublie simplement de lui dire merci. De lui dire simplement, voilà, tu peux changer ma situation. Alors, je m'aperçois que le temps est passé. Il y avait d'autres sujets que je voulais partager. Je ne vais pas le faire, parce que sinon, vous allez rester. Il y a encore des choses après le culte ce matin. Je voulais quand même parler, en conclusion ce matin, j'y reviendrai sûrement la prochaine fois, mais je voulais vous le lire juste avec vous ce matin, pour conclure ce matin le temps, en tout cas, que j'ai eu pour apporter la parole. C'est dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, et c'est le texte que je me servirai ce matin pour conclusion. Ce texte parle de l'amour du Christ, l'amour de Jésus. L'église d'Éphèse, c'est Paul qui l'a créé, et l'église d'Éphèse avait besoin d'entendre l'amour du Christ. Et je pense que nous, en tant qu'enfants de Dieu, alors pour ceux qui croient que Jésus-Christ est le sauveur du monde, on est libérés, c'est vrai, mais on a besoin de temps en temps de se rappeler de cet amour de Dieu dans nos vies. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu veut vous aider dans votre vie de tous les jours. Et il veut encore le faire aujourd'hui. Dieu n'est pas loin. Parfois, on pense que Dieu est loin dans votre vie. Parfois, on pense que Dieu peut nous décevoir. Eh bien, je vais vous montrer que Dieu n'est pas si loin que cela dans votre vie. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il nous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, et que vous puissiez comprendre que tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je voudrais juste m'arrêter sur infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La prière, bien sûr, quand on demande quelque chose à Dieu, on attend en réponse. Moi, je ne sais pas, vous, mais si votre enfant demain vient vous demander un bonbon, si vous êtes une maman ou un papa qui aimait votre enfant, vous allez lui donner. Si vous ne lui donnez pas, je l'ai fait. Vous avez vu comment je suis maintenant, c'est parce que je criais derrière ma mère. Tant qu'elle ne donnait pas le bonbon. Maman, j'étais derrière elle. Mais je voulais le bonbon. Eh bien, le Seigneur est comme cela. Priez-lui derrière nous. invoquez-le, demandez-lui de vous libérer, demandez-lui de vous donner son grand amour, demandez-lui de vous montrer vraiment ce qu'il est capable de faire dans votre vie. Et il va le faire. Il va le faire parce que c'est un grand Dieu, je viens de vous le lire, une largeur, profondeur, en fait, toutes les dimensions qu'on peut imaginer, ce que nous demandons, ce que nous pensons, Dieu peut réaliser dans votre vie de grandes choses. Attendons-nous à lui. Amen.